Restons courtois. Arthur de Vatrigan.
Vous êtes en effet toujours dans Restons courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, et nous avons le plaisir de recevoir Maximilien Frisch. Maximilien Frisch, bonjour.
Et bonjour, chers amis, merci de m'accueillir.
Vous êtes, je rappelle, écrivain, critique également, éditeur. Alors, en 2006, vous avez publié votre premier roman, La Prière, aux éditions Le Manuscrit. Un deuxième roman en 2018, L'Impasse du Salut, aux éditions Sans Escale, puis un troisième, deux ans après, en 2020, Apôtre d'Opérette, et puis l'année dernière, Folle, qui est ici. Hop, toujours aux éditions Sans Escale, donc un roman d'amour.
Exactement.
Vous avez collaboré au site Sur le Ring, qui était une revue littéraire en ligne, composée de ce qu'on pouvait appeler la jeunesse dantéquienne, en référence à Maurice Dantec, le patron de notre génération, disiez-vous. Maurice Dantec, donc, qui fera l'objet de la seconde partie de l'émission, puisque vous publiez un livre hommage à Dantec, parce qu'en juin, ça sera les 10 ans de sa mort. Ensuite, c'est un bel enchaînement, de la revue littéraire en ligne Sur le Ring, secret des éditions Ring. Et là, vous devenez l'un des deux rédacteurs du livre de Dantec, Satellite Sisters. Alors ensuite, il y a eu des petites complications.
Un peu.
Hein, ouais. Voilà, on va pas rentrer dans le détail, mais par contre, on rentrera dans le détail de votre première rencontre avec Dantec et l'expérience en tant que relecteur. C'est quand même quelque chose. Alors en 2013, vous avez créé votre revue littéraire Mauvaise Nouvelle. Puis 3 ans plus tard, votre maison d'édition Nouvelle Marge, dont vous publiez des romans, des essais, des poèmes, d'écrivains de grand talent, donc comme votre camarade Marco Brégon. Et vous avez expliqué dans L'Incorrect, dans un portrait qui vous avait été consacré, « Je nous vois comme des témoins, nous ne connaîtrons pas la victoire de notre vivant, mais peut-être pouvons-nous contribuer à transmettre la vérité sur l'être de notre civilisation, sur Dieu, toujours comptable des moyens, jamais des résultats. » Une belle ambition et une belle description pour eux de maison d'édition.
Je trouve que c'est bien dit, on oublie les phrases parfois qu'on pose.
Mais c'est dans L'Incorrect, vous savez.
On
ne vieillit
pas si bien, hein. C'était mieux avant, hein, ce que je disais.
C'est toujours mieux avant. Mais avant de nous plonger dans votre parcours, dans votre ouvrage, nous avons une tradition, celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je ne parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
Taisez-vous !
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
S'il ne fallait lire qu'un seul livre, et vous n'avez pas le droit de dire la Bible.
Alors, un prêtre marié de Barbet d'Aurevilly, j'ai découvert assez tard, mais il y a tout dedans, et surtout l'art du conte, au-delà de toute la trame, enfin toute la matière théologique, etc. C'est aussi profond que Bernanos, Blois, etc. Sauf que c'est jouissif dans cet art du conte.
Votre pire cauchemar littéraire, un manuscrit qui n'a pas de fin ou un critique qui comprend rien?
Alors ça, c'est simple, c'est le critique qui comprend rien, parce que le manuscrit qui ne prend pas de fin, de fait, c'est la malédiction dans laquelle tout écrivain est engagé. On ne mettra jamais de point final. Voilà. Par contre, un critique qui comprend rien être aimé par un con, non, ça, c'est insupportable.
Dantec ou Houellebecq?
Dantec, sans hésiter.
Un livre qu'il faudrait réécrire?
Eh bien, moi, je pensais à La Nausée, parce que ça a souvent été mon livre de chevet, je mets beaucoup. Et je me dis quand même, je le réécrirai aujourd'hui beaucoup mieux que Sartre.
Le livre que vous auriez aimé éditer?
Alors, je vais vous causer d'un vivant. Ça a été mon dernier coup de foudre. Guillaume Cyr a écrit les Grandes Patries étranges, dernièrement, je crois, il y a un an et demi à peu près. Et j'en ai rêvé 3 nuits. Ça a été vraiment un coup de foudre. C'est vraiment très bon et j'aurais préféré que ce soit moi qui sorte ce livre, ouais, comme éditeur.
4 écrivains pour un dîner, vous avez le droit de convoquer des morts.
Ah, alors c'est bien de convoquer des morts, mais c'est vrai que j'imaginais plutôt des vivants, justement pour avoir l'occasion de picoler, de passer un bon moment. Alors Guillaume Cyr, là que je viens de citer, moi j'aimerais bien l'avoir autour de la table. Sarah Vaïda, qui fut la personne qui a inauguré les éditions Nouvelle Marge, que j'admirais et qui a livré son premier livre aux éditions Nouvelle Marge. Et puis, Makin, quand même, il nous faut un académicien toujours à table, parce que il faut, comme ça, on sera bien servi, il y aura un peu de tenue. Voilà, et j'avais eu l'honneur de l'interviewer pour L'Incorrect, d'ailleurs, il y a quelques années. Et puis, alors, peut-être il faut le choisir, mon dernier préfacier, Stéphane Barsac, quand même, qui nous amènera toute la culture du XXe siècle, tous ceux qu'il a croisés. C'est dommage de se limiter à 4, sinon j'aurais invité, bien sûr, tous mes auteurs, dont Marc.
C'est pour ça qu'on a dit 4.
Ouais.
Quel écrivain auriez-vous aimé interviewer et quelle première question lui auriez-vous posée?
Alors, c'était assez difficile, ça, de réfléchir à ça. Moi, je pense à Cocteau. À Cocteau, et la question vraiment qui me travaille, parce que forcément, il y a une phrase de Cocteau dans mon dernier roman, mais c'est comment on fait pour imposer son hypersensibilité au monde et survivre malgré tout? Parce que c'était ça, Cocteau. C'est profond par superficialité, hypersensible, et néanmoins, c'est le grand passeur du XXe siècle. Tous les auteurs, tous les peintres sont passés par lui. Voilà, donc Cocteau, et cette curieuse question qui pourrait nous amener à une réponse sans fin, hein, toute une nuit de réponses, peut-être.
Tout un dîner. Si vous, on vous avait demandé si vous deviez réécrire un livre, là, si vous deviez réécrire la fin d'un livre, ce serait lequel?
Peut-être le même, parce que comme j'ai réécrit toute la nausée, il y a la fin quand même qu'il faut bien
Faut
soigner,
réécrire.
Quoi.
Quel est le classique le plus surestimé?
Alors, ça va pas plaire, hein, ça va pas plaire. L'étranger de Camus, ça me gonfle. Et alors surtout ceux qui en parlent. Ça pourrait ne pas être très grave, l'étranger de Camus en tant que classique, mais alors le gargarisme, tout ce qu'ont tout compris, à l'existentialisme, à l'absurde, oh, l'absurde, comme si. Non, ça m'énerve. Donc, voilà.
Et enfin, la perle littéraire que tout le monde a oubliée.
Alors, c'est dur à choisir parce qu'on est dans un monde où la postérité semble être dépassée. La postérité est un concept du XXe siècle. J'en suis maintenant persuadé. Dante est oublié. Solaire commence à s'oublier.
Pour l'instant.
Oui, pour l'instant, exactement. Non, je pensais à Monterland, en fait. Monterland, qui est quand même une intelligence magnifique faite papier, quoi. Voilà. Et je ne suis pas sûr qu'on lise beaucoup Monterland. On joue un peu encore Monterland, Théâtre du Nord-Ouest, notamment.
Est-ce qu'il fallait en garder qu'un seul de Monterland?
La Reine Morte, le théâtre. La Reine Morte.
La Reine Morte. Merci beaucoup, Maximilien Frisch. Maintenant, on va parler un peu de vous. D'où vient votre goût pour la littérature?
Eh bien, je n'ai pas choisi, en fait. Ça vient de mes 16 ans. J'écris depuis l'âge de mes 16 ans. Et je ne sais pas ne pas écrire, en fait. C'est mon vrai problème. Vous savez, pendant des années, je n'avais pas d'éditeur. Et les échecs ne m'ont jamais, persuadé d'arrêter. Voilà. Et j'écris depuis l'âge de mes 16 ans, à cause de ce que je raconte dans Folle, et on en parlera peut-être, mais à cause d'une jeune fille, tout simplement, qui m'a dit qu'il fallait que j'écrive. Elle m'a engendré en tant qu'écrivain, et depuis, je n'écris pas, je lui écris, quoi, c'est tout.
Mais est-ce que dans votre famille, on lisait des livres? Est-ce
oui.
que, enfant, vous lisiez?
Oui, alors non, pas du tout. Alors, c'est ça qui est drôle. Oui, dans ma famille, on lisait, c'était une famille quand même instruite, mais moi, je n'arrivais pas à lire, ça me donnait la nausée. Les livres pour enfants, je n'ai pas connu de littérature de jeunesse, pas du tout, jamais. J'ai commencé vraiment à trouver... Même ils avaient essayé, mes parents, de me faire lire les livres dont on est les héros, vous savez. Je commence, putain, première page, je meurs. C'était peut-être là mon goût pour la littérature, d'ailleurs, de mourir aussitôt avec un livre dont on est les héros. Non, j'ai commencé à aimer la littérature à 14 ans avec Les Hauts de Hurlevent. Mon Dieu, ça m'a pris un an pour le lire. Mais j'ai trouvé ça formidable. Et à partir de là, j'ai lu lentement, mais tout le temps. Mais du coup, voilà, je ne suis pas tombé dedans. Et beaucoup d'amis me disent, mais ne lis pas tel livre, par exemple Barbel, qu'on évoquait tout à l'heure. Tu seras dégoûté, tu arrêteras d'écrire. Mais non, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à écrire d'une façon parallèle. Pas à cause de la littérature. Par contre, écrire m'a donné envie de lire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un écrivain et se désintéresser de la littérature. Ça, ce n'est pas possible, au bout d'un moment. Ça, c'est impossible. Donc, et en plus, c'est un prétexte pour écrire. Écrire sur les autres, c'est encore écrire. Donc, c'est pour ça que je lis, pour pouvoir écrire de nouveau des critiques littéraires et autres. Donc, voilà, je suis né en littérature, un petit peu à cause de l'art d'écrire. Un petit peu comme ces artistes, quand Nicolas de Staël dit « Je ne sais pas ce qui a mis en moi cette injonction de le faire, mais je dois le faire. » Mais moi, c'est ça que j'ai ressenti. Voilà. Donc, du coup, j'imite personne. C'est ça qui est pratique. Et alors, c'est très curieux parce que j'ai relu, à l'occasion de la parution de Folle, enfin, avant, de l'écriture de Folle, j'ai relu mes écrits de mes 16 ans. Alors, bien sûr, il y a un peu de fraîcheur. Hein. On vieillit, on se patine. J'ai quand même 50 ans, il faut l'assumer. Mais franchement, je ne renie rien. C'était le même ton. C'était cette même phrase qui s'avance tout en se retirant, en s'excusant d'avoir à dire les choses. Non, enfin, voilà, je ne vais pas me parler... Enfin, je parle de moi, puisque c'est le sujet.
C'est un peu le sujet de l'émission. Hein.
Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse.
Et qu'est-ce qui vous inspire quand vous écrivez? Il y a une pulsion, il y a un besoin. Mais est-ce qu'il y a des inspirations? Est-ce que c'est ce que vous, les gens que vous croisez, est-ce que c'est des événements que vous avez vécu ou que vous avez regardé ou ce sont des obsessions qui traînent?
Alors ce sont des obsessions, ça c'est sûr, parce que tout artiste est un obsédé. Mais ce qui me met en situation de commencer cette page-là qui va s'écrire, c'est comment dire, le fruit d'une observation où l'ironie du sort s'est exprimée. Si vous voulez, l'ironie est le moteur de la création, et le moteur même de la création, de la narration, le moteur de la narration du créateur lui-même. Tel était roi qui finit et cadavre sur la croix, et l'ironie se retourne, et tel est cadavre qui devient nourriture, nourriture éternelle. Donc, en fait, c'est l'ironie qui crée la narration. Et donc, dès que je peux saisir une ironie, et alors il y en a plein, hein, je pourrais passer mon temps à ça, c'est un prétexte à poser ma poésie. Parce qu'en fait, dans l'art d'écrire, il y a ça, cette jouissance des mots qui s'appellent les uns les autres et qui rentrent dans une espèce de musique. Voilà. Donc, l'observation de l'ironie, et après cette jouissance de l'art d'écrire. Mais il faut quand même avoir à dire quelque chose, hein, parce que sinon on tombe dans l'exercice de style, ça serait méprisable quand même. Il faut à la fois une langue, rendre un peu discrète sa langue, parce que c'est pénible sinon pour les gens. Les grands fans de littérature, les grandes fans de Maximilien Frisch, je leur offrirai le Maxi 45, mais en gros, il faut quand même que je sois comestible, donc j'essaye de rendre discrète un peu ma langue, et après d'avoir quelque chose à dire. Il faut toujours quand même, même si le message n'est pas premier, c'est-à-dire je vais avoir un message, mais finalement je vais me dire à travers ce message, ce message deviendra secondaire. Bon, passons. Mais alors j'ai souvent l'habitude de prendre l'exemple de la pétanque pour le style, voyez. On envoie la boule, mais au moment d'envoyer avec un peu de force, on la retient. Et c'est ça, en fait, l'art d'écrire. Et puis, il faut quand même avoir quelque chose à dire, donc essayer d'atteindre le cochonnet, d'aller droit au but, n'est-ce pas? Donc voilà, l'allégorie de la pétanque pour la littérature, je pense que ça ne s'était jamais fait, mais...
Et alors, l'art d'être éditeur, c'est quoi? Parce que donc... Commençons par le début. Vous avez donc créé... on va commencer d'ailleurs par la critique. Mmh. On finira par l'éditeur. C'est l'avantage quand on écrit, c'est qu'on fait tous les métiers. Ouais. Donc vous avez créé Mauvaise Nouvelle, en 2013, qui est donc une revue littéraire en ligne. Comment vous définir cette revue?
Ouais, alors c'est un truc d'autocrate. Hein. C'est moi le patron, je fais ce que je veux. Ça c'est très pratique quand
c'est
même.
Pas mal ça. Hein.
Pas d'association, je risque pas d'être foutu dehors de Mauvaise Nouvelle, je m'amène la vie. En fait, moi, j'étais nostalgique de la revue Sur le Ring qu'on a évoquée tout à l'heure. Je trouvais ça génial. Alors, il y avait beaucoup d'actu, beaucoup de politique quand même sur le ring. Mais néanmoins, il y avait une vraie force. Causeur n'existait pas encore. Enfin, il y avait la modernité, c'était sur le ring. Et puis, moi, j'avais proposé à l'époque à Kersan de relancer le truc parce que je ne m'y retrouvais pas tellement dans la maison d'édition. Et bon, comme je ne l'ai pas vu bouger, bah, j'ai lancé Mauvaise Nouvelle. Et au début, je lance Mauvaise Nouvelle avec l'idée d'être à la fois glose outrancière de l'actualité, hein, comme on peut le faire parfois à ces micros, et laboratoire du verbe. Et je voulais que ça soit le champ du possible. Après tout, c'est sur le web. Je ne supporte pas cette espèce d'injonction du formatage, d'imiter le mainstream. Il faut que ça soit d'actualité, l'actualité brûlante. Il faut que ça soit pas trop long, il faut que ça soit pas trop court, il faut que le titre clash. Et puis, de toute façon, on s'en fout du texte parce que l'essentiel, c'est l'image. Mais non, mais c'est méprisable. Si j'ai choisi justement cette liberté, c'est pour ne pas imiter le mainstream. Et donc, c'est un lieu, une vaste marge de liberté. Hein. Il y a eu des gens qui m'ont proposé des textes un peu longs, des recensions, des choses de très grande qualité, des choses un peu plus futiles. Mais tout le monde a le droit d'exister au moins une semaine à Mauvaise Nouvelle. Puis après, ben, y a un autre texte qui arrive et c'est très bien. Et alors, l'innovation dans Mauvaise Nouvelle, c'est qu'on a fait beaucoup de présentations d'artistes vivants, des peintres. Et ça, c'est rare aussi. Souvent, c'est politique, bien sûr littérature, parce qu'il y a des produits à vendre derrière. Mais alors, la peinture, faire parler des artistes, etc., ça devient un peu plus rare. Et moi, j'avais très envie de faire ça, d'être totalement libre. Et là, effectivement, Mauvaise Nouvelle, par rapport au début, on est beaucoup plus sur la littérature et l'art, un peu la pensée, la poésie, beaucoup moins sur le commentaire de l'actualité. Parce que j'ai moins le temps.
Mais vous faites quand même de l'actualité culturelle.
l'actualité culturelle, mais au début, on faisait le commentaire aussi de l'actualité. J'ai écrit beaucoup de papiers méchants sur Macron, beaucoup de papiers méchants sur Hollande, etc. On se faisait plaisir. Mais bon, comme j'ai un peu moins le temps, je sais faire, mais j'ai moins le temps.
Alors, c'est quoi un critique littéraire ? C'est quoi un bon critique littéraire ?
Alors, moi, ce que j'aime, ce n'est pas... Il faudrait trouver un autre terme. Vous voyez, on remplace souvent le mot critique d'art par écrivain d'art. Et ce qui m'intéresse, ce serait plutôt être écrivain littéraire, c'est-à-dire écrire sur... Moi, lire un autre est un prétexte à écrire. D'ailleurs, je vais convoquer ma façon d'écrire et finalement aller à la rencontre de l'auteur. C'est pour ça que j'écris quasiment jamais de critiques négatives, parce que ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie d'aller à la rencontre d'un auteur que je n'aime pas.
Mais si vous lisez un auteur et puis vous n'aimez pas le livre, vous n'écrivez pas ?
Rarement.
Donc vous écrivez que ce que vous aimez ?
Oui.
Alors, sur ce que vous avez aimé dans ces dernières semaines, est-ce que vous pouvez nous citer 2-3 ouvrages qui vous ont marqué dans les 6 derniers mois, par exemple ?
Donc j'ai déjà cité Guillaume Cyr, je vais pas y revenir. Il y a Luc-Olivier Dalgange qui a fait des très beaux ouvrages, alors qui ne sont pas narratifs, hein, qui sont plutôt de l'ordre de la... d'une façon un peu prosaïque, de la compilation de phrases ou d'idées, mais qui sont d'une profondeur incroyable. Qu'est-ce que je pourrais citer ? Je sais pas. Il faut que j'évite de citer Marc, bien sûr, Marc Aubregon, qui est publié pas que chez moi, qui publie des très très bons livres et que je goûte et dont je parle très souvent. Valérie Mollet aussi, qui publie ailleurs que chez moi, que j'ai publié, qui a publié de très bons livres en dehors de chez moi. Sarah Vaida, qui publie au Cherche Midi, qui a publié une très belle dystopie sur l'euthanasie, justement, une histoire d'une femme, Mireille, qui a 69 ans, parce que l'État a décidé que tout le monde à 69 ans devait être euthanasié. Et là, Mireille dit plutôt crever que qu'être euthanasié, donc elle part et c'est un road trip fabuleux. Ça, c'est très bon. Il y a de très bons livres, puis il y a des livres qui se tiennent sans être excellents, mais qui méritent qu'on en parle.
Alors, c'est quoi le terme que vous avez dit ? Écrivain littéraire ?
Écrivain littéraire, oui.
Écrivain littéraire, et donc éditeur. Alors, vous avez créé votre maison d'édition, Nouvelle Marge.
Oui.
Alors, pareil, vous avez créé votre revue, on a compris pourquoi. Pourquoi vous avez créé votre maison d'édition au-delà, parce que c'est vous le patron et vous faites ce que vous voulez.
Là aussi, oui, je suis complètement autocrate à Nouvelle Marge.
Parce que vous ne trouvez pas de maison d'édition qui vous convenait ? Il y avait un manque quelque part dans la littérature française aujourd'hui ?
En fait, quand j'ai créé Nouvelle Marge, je n'étais pas édité moi-même. Et quand on est chrétien, parfois, on essaye toujours de lire le sens des choses. Pourquoi je ne suis pas édité alors que je faisais l'effort, avec l'impasse du salut notamment, d'essayer de rembourser de mes dons, de mes tares reçus, en essayant de faire louange, quelque part. Eh bien, j'ai réfléchi, ce que j'étais, je me dis, s'il ne veut pas que tu sois édité, peut-être qu'il attend de toi que tu sois éditeur, ce qui est une vaste connerie, parce que de toute façon, la seule chose qu'il attend de moi, c'est d'être un saint. Il ne veut pas que j'écrive des bouquins, ni que j'en édite. Mais bon, peu importe, on essaye d'avoir cette lecture, et donc je décide, à ce moment-là, de lancer ma maison d'édition. Je me dis, après tout... Avec de mauvaises nouvelles, j'étais déjà en situation d'éditeur, puisque j'accueillais des auteurs qui écrivaient. Donc, pourquoi pas continuer, prolonger cette logique-là. Et c'est pile au moment où je décide de lancer ma maison d'édition que moi-même, je trouve un éditeur. L'ironie du sort. L'ironie du sort est le moteur de la narration du créateur, encore une fois. Alors, je ne pouvais pas lâcher. Je ne pouvais pas dire, c'est bon, j'ai trouvé l'éditeur, je deviens plus moi-même éditeur. Donc, j'y suis allé. Et ce que je voulais, c'était... Nouvelle Marge, parce que c'est l'inversion des lettres mauvaise nouvelle, Nouvelle Marge, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu de l'ordre du révolutionnaire. Pourquoi ? Le centre est occupé. Le centre est occupé et bien occupé. Donc j'ai eu le sentiment avec Internet, avec ces marges qui nous étaient données, que nous pouvions exister, voire que nous devions exister et que nous devions élargir la marge. C'est-à-dire prendre la marge comme on prend le large et puis se tourner le dos à tous les potentats de la littérature qui occupent le centre.
Mais c'est quoi la marge ? Parce que vous dites le centre est occupé, c'est quoi le centre ?
Le centre est occupé par Gracie Mareuil, les cinq, là, Albin Michel, Gallimard, etc. Le centre est occupé par des potentats. Il y avait cinq critiques littéraires qui faisaient l'appui et le beau temps. Hein, et après, tous les autres étaient des copistes de ces critiques littéraires. Donc, on va arrêter quand même d'envoyer en service presse à Télérama ou à l'ancien là, de France Inter, maintenant il n'y est plus, voilà, ou à Traquenard, on va arrêter d'envoyer des services presse. On sait qu'ils se moquent éperdument de nous, qu'ils ne sont que des agents du capitalisme littéraire. Donc, en fait, voilà. Donc, la marge, c'est tourner le dos à ces gens qui occupent le terrain et puis se dire, ben, nous allons faire ce qu'il nous semble le plus honnête de faire. Et on n'aura peut-être pas la gloire, mais en tout cas, on existera et on aura posé des actes honnêtes avant de mourir. Voilà, c'est ça la marge. Mais je pense que ce que vous faites à l'incorrect, ce qu'on fait ici à Radio Courtoisie, procède de la même logique. C'est-à-dire qu'on sait que France Inter ne nous accueillera pas pour Restons Courtois, donc on va le faire ailleurs.
Ça, je vous confirme qu'ils ne vont pas tout de suite qu'ils vont nous accueillir.
On sait que le Figaro ne nous accueillera pas comme directeur littéraire ou directeur de la publication. Eh bien, on va créer le média qui nous ressemble.
Alors, c'est quoi un éditeur ? En quoi consiste le métier d'éditeur ? C'est quoi un bon éditeur ?
Un bon éditeur, c'est d'abord quelqu'un qui choisit son auteur, qui choisit le livre.
C'est-à-dire, vous choisissez un livre. C'est-à-dire que vous n'avez pas cherché un livre, vous n'êtes pas un chasseur de livres.
Non,
vous
non, envoie non, des manuscrits. J'en reçois, voilà. On m'en envoie. Il y a des gens qui pensent à moi. J'en reçois beaucoup, malheureusement. Et en fait, c'est là aussi une rencontre. On tombe amoureux d'un livre, d'une langue. D'abord, moi, j'ai besoin d'une langue et d'un message. L'auteur a une langue. Et c'est pas un prof qui s'est mis à écrire, simplement. C'est quelqu'un qui a cette injonction de devoir écrire.
Un style.
Exactement, un style. Et puis, quelque chose à dire. Parce que si c'est juste dire, regardez, j'ai de l'or au bout des doigts, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Voilà.
Oui, c'est
quand même raconter une histoire, c'est chiant. Voilà, c'est bien pour une sorte d'adolescence de la création, mais au bout d'un moment, il faut aller à la rencontre des autres. Donc, il faut leur dire des choses. Donc, se faire un peu plus discret et raconter une histoire. Et dans cette histoire, y déposer une petite leçon de philosophie idéalement. Et là, c'est le livre idéal. C'est le livre idéal. Voilà. Et donc, moi, voilà, une fois que je choisis ce livre, il y a un travail avec l'auteur, parce que je lui fais souvent réécrire des choses. Et normalement, un bon auteur qui va chercher un éditeur attend ça de l'éditeur. Une lecture constructive où il va donner les derniers coups de rabot qui vont rendre le livre très, non pas efficace comme le capitalisme le veut, mais efficace pour aller à la rencontre des gens. Voilà. Moi, il y a des auteurs que j'ai fait réécrire jusqu'à 4 fois leur roman. Mais parce que j'avais déjà décidé de le publier. Et si l'auteur me dit « Je n'y touche pas, je suis un génie, malgré Dostoïevski, malgré Bernanos, moi j'arrive et on ne touche pas à cette virgule », je dis « Vous n'avez pas besoin d'éditeur à ce moment-là, monsieur, passez votre chemin et faites le travail vous-même. Voilà. »
Et alors, une fois que vous avez donc atteint ce que vous souhaitiez, ce que vous avez détecté dans la première version, dans le premier manuscrit, ça se passe comment ? Parce que, il y a éditer un livre, c'est recevoir, l'imprimer, c'est peut-être à la portée de tout le monde. Peut-être qu'il y a un métier particulier, d'ailleurs, une mise en page, une impression.
C'est vrai,
quand on voit des livres auto-édités et des livres édités, le résultat n'est absolument pas le même.
Et non,
alors,
non.
D'un point de vue technique, comment pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne ?
Il y a un travail un petit peu artisanal, c'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'on appelle la PAO, c'est-à-dire que la mise en page d'un livre, et ça se calibre page après page, hein, pour que ça soit joli, qu'il n'y ait pas des mots coupés d'une façon moche, etc. Le choix de la police est important. Il y a bien sûr toute la relecture au niveau de la typo, de la ponctuation. Donc c'est assez laborieux finalement, mais assez jouissif parce qu'on construit un objet. Vous voyez, on transforme finalement une pensée. Alors l'écrivain a transformé sa pensée en texte et on transforme un texte en objet. Un objet qui va circuler. C'est pour ça que j'ai jamais fait de l'édition, vous savez, dématérialisée, là. J'ai essayé de m'y intéresser, mais j'y arrive pas, quoi. J'ai envie quand même d'aller jusqu'à l'objet. Parce que justement, aujourd'hui, si on va jusqu'à l'objet, parce qu'il y a plein d'autres façons d'écrire, hein. On a parlé de mauvaises nouvelles, on peut écrire sur le web n'importe où, hein. On n'a pas besoin de... Mais donc, il y a un paradoxe d'aller jusqu'à l'objet pour rendre l'objet, finalement, retour à la case départ numérique.
Et ensuite, une fois que vous avez l'objet, il y a toute partie de distribution.
Oui.
Alors ça, on dit qu'il y a le réseau Hachette, voilà. Ouais. Alors comment ça fonctionne
Alors c'est très simple. La chaîne du livre, donc il y a l'éditeur. Alors il y a l'écrivain, c'est comme en agriculture. Hein. L'écrivain, c'est la vache. Bon, voilà.
Marc Aubrégon, vous êtes une belle vache.
Voilà. L'éditeur, c'est l'agriculteur. Et derrière, on a le commerce. Le commerce, c'est diffuseur et distributeur. généralement qui sont associés, qui appartiennent aux grandes maisons d'édition, donc mes concurrents, hein, qui, lorsqu'on signe des contrats avec eux, moi, j'en signe pas, j'ai renoncé. Non, aucune, bien sûr, obligation de résultat, mais même pas une obligation de moyens en disant « je vais installer le livre dans X librairie ». Non, ils prennent le livre. Les commerciaux qui ne lisent pas les livres, qui vont juste noter le nom d'un auteur et un pitch, décident de l'installer ou pas, selon la sensibilité qu'ils ont, selon la capacité de vente. Si vous êtes déjà un auteur qui a déjà publié, qui n'a pas vendu, à ce moment-là, ils ne l'installent pas. Il faut prendre un pseudo. C'est pour ça que lorsqu'on va voir des grandes maisons d'édition, ils nous disent souvent « on vous publiera peut-être, mais de toute façon, on dira que c'est un premier roman et vous vous appellerez Bachy Bouzouk. » Ils diront « nous avons révélé Bachy Bouzouk. » Voilà. Donc, la chaîne du livre, voilà, qui prend 60% du prix du livre, en gros. Et derrière, il y a le libraire. Donc, moi, j'ai renoncé au diffuseur-distributeur. Donc, je suis autodiffusé, autodistribué. Alors, du coup, moins présent en librairie. Mais de toute façon, je crois que je ne le serais pas, même si j'avais signé avec un diffuseur. Bon, voilà, c'est comme ça. Et il y a le libraire, bien sûr, hein, Allez, je vais être méchant. Vous voulez que je sois méchant ?
Oui, allez-y.
Libraires, je les appelle donc les épiciers du livre. Il y a de très bons libraires, peut-être, hein, mais ça reste des vendeurs de cartes postales, donc on va se calmer. La plupart se prennent pour des critiques littéraires. Ouais. Tout le monde est déplacé, quoi. Voilà, les journalistes se prennent pour des écrivains et les boutiquiers se prennent pour des critiques littéraires. Bon, quand le vrai héros, qui est le lecteur, va commander un livre chez le libraire, va commander un livre de marque, par exemple, chez le libraire, l'épicier va prendre 40% de marge. Moi, je vais lui envoyer le livre et le héros aura sauvé la culture en allant commander son petit libraire. Bon, sauf que à chaque fois qu'effectivement on parle de sauver la culture, on dit il faut sauver les libraires. Non, ça c'est du poujadisme en fait. Hein. Ils sont marrants, les gens de gauche, ils font du poujadisme. Ça, c'est extraordinaire. Mais qui sauve les petits éditeurs, hein? Moi, quand je vais voir un libraire, déjà, il tire une gueule pas possible. Oh, encore un écrivain, encore un éditeur. Ben, quand même, réjouissez-vous, c'est notre métier commun. Bon, bref, c'est pas grave. Et alors, qui nous sauve? Je ne sais pas. Peut-être bien, moi en tout cas, j'ai été sauvé au début, par Amazon. Ah, le vrai scandale, c'est-à-dire le...
Par Satan en personne.
Par Satan en personne, mais moi, j'ai rien d'autre. Hein, qui peut nous rendre visible à part ces plateformes? Voilà.
Et puis, c'est vrai qu'en plus, généralement, elles sont plus réactives. Alors, à un prix... Peut-être si on regarde l'arrière-cuisine, c'est pas très beau. Mais c'est vrai que quand on voit nos camarades libraires qui refusent d'éditer des livres parce qu'ils ne sont pas assez de gauche à leurs yeux et que quand ils le font, il faut le commander, ça prend 4 semaines. On verse assez facilement et rapidement chez le diable américain. En parlant de diable, il est 19h. Écoutez ce petit message et on se retrouve tout de suite après.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Restons courtois.
Arthur de Vatrigan.
Et oui, vous êtes toujours dans Restons courtois, l'émission débat de Radio Courtoisie. Nous sommes avec Maximilien Frisch qui publie donc son roman Folle aux éditions Sans Escale, qui est également à la tête de la revue littéraire en ligne Mauvaise Nouvelle et qui est éditeur. Il a sa maison d'édition qui s'appelle Nouvelle Marge. Je ne me suis pas inversé dans les nouvelles et dans les mauvaises, c'est très bien. 19h01, c'est l'heure de la chronique de Marc Obregon qui va nous parler de George Orwell parce qu'un documentaire est sorti sur George Orwell.
Oui, aujourd'hui est sorti donc 2 plus 2 égale 5, documentaire de Raoul Peck sur George Orwell. Alors, un documentaire sur George Orwell, composé d'images d'archives, mais aussi d'extraits de films et d'actualités récentes. Sur le papier, on se disait pourquoi pas. Alors que tout le monde prédit le retour du fascisme et du bruit des bottes, il y avait en effet un sujet qu'on aurait eu plaisir à voir traité à contre-courant. Sauf que Raoul Peck, par ailleurs ministre de la Culture en Haïti, s'en empare avec la subtilité d'un boomer au galop vers la double porte des clichés gauchistes les plus condescendants. On croyait Michael Moore et sa moraline définitivement enterrés sous le centre du 11 septembre, la voilà qui revient en force, presque intacte, comme si rien ne s'était passé en 2 décennies. Et c'est peut-être le plus surprenant dans ce film, cette terrible obsolescence. Il aurait pu être littéralement fait il y a 25 ans, on n'aurait vu que du feu. On a même droit à la fameuse image de Colin Powell et de sa fiole d'anthrax, pour ceux qui auraient raté l'épisode. Tout au plus, les dirigeants des GAFAM y font une courte apparition, mais non en tant que porteurs d'une technomancie qui menace de faire sombrer le monde dans un simulacre global, non, juste en tant que méchant capitaliste, à côté de Vincent Bolloré et de Richard Branson. La question pourtant n'aurait pas manqué de sel entre les mains d'un vrai cinéaste. George Orwell est-il encore d'actualité ? À voir la façon dont ce petit film de montage s'enfonce dans le conformisme, on se doit de répondre non. George Orwell est d'une époque révolue. Né dans les Indes britanniques, s'il a servi la police impériale de la couronne, il était adolescent quand a éclaté la Grande Guerre, et tout son logiciel politique est régi par ce paradigme, le totalitarisme, comme suggestion hallucinatoire du collectif et métastase de la révolution industrielle. Il faut rappeler à ce titre que les dystopies étaient déjà nombreuses à son époque, et que son chef-d'œuvre doit sûrement beaucoup aux nous autres de Zamiatine, écrit sous le joug de Staline, et même à l'injustement oublié Kallocain de la suédoise Karin Boyle, écrit 10 ans avant.
Alors que raconte au juste ce documentaire ?
Eh bien, cher Arthur, que le fascisme c'est mal, et que le capitalisme tue, et que la novlangue fait fureur dans les coursives du pouvoir.
Aïe.
La belle affaire. La disparition de la vérité objective, l'ère de la post-vérité, tout cela relève finalement d'une problématique très 19e siècle, serait-on tenté de dire, qui correspond précisément à ce moment où l'Occident sombre dans la surproductivité. Le totalitarisme, c'est donc la version politique du lobbyisme industriel. Un constat qui fonctionne jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, mais qui a vite été oblitéré dès les années 50 par l'écrivain de SF Philippe K. Dick, puis un peu plus tard par Jean Baudrillard, notre philosophe français. À la question posée par Orwell, qui est « qu'est-ce qui relève du vrai dans un système politique ?», les deux hommes auraient plutôt tendance à rétorquer « qu'est-ce qui relève du politique dans la question du vrai ?». Car là où le film de Raoul Peck montre toute son incurie intellectuelle, c'est précisément en oubliant de dire à quel point le progressisme, et notamment le progressisme entendu comme unique valeur morale des démocraties, porte lui aussi les germes de la dictature. Alors peut-être pas une dictature déclarée comme celle de 1984, mais une dictature passive, une hypnocratie dans laquelle, au nom de l'égalité du droit à la jouissance, les êtres humains sont entretenus dans la prison de leur ego, dans ce que le philosophe italien Giorgio Agamben appelait le pays du jouet, c'est-à-dire ce moment où les êtres humains n'ont plus conscience de la verticalité, de ce qui les dépasse et ne vivent que pour leur propre divertissement. Une post-histoire donc, dans laquelle les GAFAM nous ont précipités, et qui est sans doute bien plus délétère que les bons vieux totalitarismes à Mirador et à Chien de Garde que nous dépeint le brave haïtien, comme si rien n'avait changé depuis l'Espagne franquiste.
Donc si on vous écoute, ce documentaire est presque un film de propagande.
Exactement. Ce film entretient un tel niveau d'aveuglement qu'il finit à ressembler à ce qu'il dénonce, c'est-à-dire une sorte de tract politique qui simplifie la réalité, flatte les bas instincts et subjugue le spectateur dans une sorte de succession d'images chocs qui sont déployées sans aucune articulation. En fait, George Orwell aurait sûrement détesté ce film qui transforme ses intuitions politiques en propagande. Le summum du ridicule est atteint vers la fin du film où Raoul Peck surimpressionne le fameux « I can't breathe » de George Floyd au halètement d'agonie de George Orwell sur son lit d'hôpital. On se demande bien quel est le rapport. Mais oui, attendez une seconde. Ils s'appellent tous les deux Georges, c'est ça.
En somme, l'ère postmoderne attend son 1984.
Oui, dans son livre « Simulacre et simulation », Jean Baudrillard définissait trois types de simulacres. Le simulacre naturel, qui veut reproduire l'image de divin, et qui se traduit par l'utopie. Le simulacre productiviste, lié au monde machinique, et dont le pendant littéraire serait la dystopie. Et enfin, le simulacre de la simulation, soit le simulacre au carré, fondé sur l'information et l'algorithme. Pour ce dernier, effectivement, un grand livre reste encore à écrire.
Bah, ça tombe bien, on a un écrivain et un éditeur. C'est peut-être une petite idée de prochain livre. Revenons à vous, Maximilien Friche. Donc, écrivain littéraire, écrivain, éditeur. Alors, vous avez écrit, je le rappelle, Folle, un roman d'amour, aux éditions, ça y est, j'ai oublié, Sans Escale. Mais alors, pourquoi vous n'avez pas édité chez vous ? Un écrivain ne doit pas éditer en sa maison d'édition.
Je m'étais dit que j'étais pas assez vieux encore pour le faire, qu'il me fallait un tiers de confiance pour être crédible encore. Je finirais peut-être par le faire, mais là, voilà, j'ai un éditeur qui m'aime. Autant
le garder.
Autant le garder,
voilà. Alors maintenant, parlons de votre roman, Folle. Donc, Marc Aubrégon, racontez-nous un peu ce roman et pourquoi vous l'avez aimé, au-delà de... Parce que Maximilien Friche vous édite, évidemment.
Ce qui m'a frappé, évidemment, en premier lieu, c'est peut-être...
Peut-être vous raconter l'histoire.
Alors l'histoire, c'est simple, c'est une histoire d'amour en fait, c'est une histoire d'amour et de mémoire. Donc c'est l'histoire d'un amour impossible, d'un amour de jeunesse, qui en fait réécrit à travers les souvenirs du narrateur. Et en fait, moi, ce roman m'a fait, alors c'est peut-être un héritage un peu pesant, mais ce roman m'a fait penser dès les premières pages à Rebatté. Est-ce que c'est une influence pour vous, des auteurs d'art ? Parce qu'il y a ce passage, il y a cette vision, cette double vision de Lyon et de Paris qui rythme un peu le roman. Est-ce que c'est une influence réelle ou c'est juste un concours de circonstances ?
C'est qu'un concours de circonstances parce que je n'ai pas encore lu le grand roman du XXe siècle, les deux étendards dont tout le monde me dit qu'il faut le lire. Déjà,
bon courage.
Il faut y passer un bel été parce que c'est quand même un pavé. Mmh. Effectivement, il y a Lyon, donc je comprends.
Il y a Lyon et Paris.
Pas le seul à me le dire. Et tant mieux si ça fait un écho à d'autres lectures. Non, c'est ce roman était le roman que je devais écrire pour confirmer ce que je suis, pourquoi j'écris. Mmh. En fait, voilà. En fait, j'ai eu envie de poser, de prendre le risque de poser le point final, en fait. Pour un écrivain, poser le point final, c'est la possibilité de mourir, en fait. Et donc là, je me dis, si j'ai tout écrit, je peux mourir. Mais peut-être qu'à 50 ans, j'ai le droit de poser ce point final. Et je le dis, voilà, peut-être que j'écrirai plus rien d'autre. Je sais que c'est faux, je réécrirai. Mais en fait, j'aurais écrit l'essentiel.
Alors, ce qui est amusant, c'est que dans celui-là, comme dans le précédent, un peu d'opérette, il y a aussi cette volonté, j'ai l'impression, d'en finir un peu avec l'adolescence et de montrer que l'adolescence peut survivre à l'âge adulte. Et finalement, il y a vraiment cette conscience très aiguë de ce qu'était votre jeunesse et de la faire revivre finalement à travers le romanesque. La romanesque entendue vraiment comme une sorte d'adolescence amplifiée.
Oui, alors, il y a trois parties dans ce roman. Et c'est effectivement, il y a l'enfance de l'art, ce moment hein, où les jeunes gens nourrissent un amour épistolaire à 16 ans. Et puis après, il y a la partie du milieu qui représente toutes les impasses de l'âge adulte. L'âge adulte est un âge sans âme. L'âge adulte est un leurre. On se drape derrière un être social. Je suis chef de cabinet, je suis consultant senior. Vous rendez compte, je suis consultant senior aujourd'hui, ça me fait de belles jambes. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que j'ai toujours 16 ans et que tout ça est faux. Les hommes, entre eux, par le travail, vous avez tous vécu ça dans des soirées, là, dans les dîners. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, comme boulot? Ouais, c'est sympa, tout ça. En fait, on s'en fout. La vérité, c'est qu'on est toujours ces amoureux écorchés vifs. Et donc, voilà, c'est ça que j'ai voulu écrire dans le roman. Donc, la première partie, l'enfance de l'art. Deuxième partie, je ne sais même plus comment j'appelle ça, mais enfin, toutes les impasses de la vie. Et la troisième partie, c'est comment on arrive à survivre à cette conscience que l'âge adulte est un leurre, comment on arrive à survivre à cette fidélité que l'on doit à sa jeunesse, quand même, dans
cette semper fidélis. Ce qui m'a aussi marqué dans ce roman, c'est la façon dont vous admettez peut-être que finalement, la vraie histoire d'amour, en fait, ne peut être que littéraire. C'est-à-dire qu'en fait, elle se fait réellement en se réécrivant constamment, en fait. Elle peut être qu'une sorte de fantasme littéraire, finalement.
Ah bah totalement, c'est-à-dire que on arrive même à douter si c'est un amour réel ou pas. C'est un amour épistolaire entre deux jeunes gens, c'est-à-dire qu'ils s'écrivent des choses incroyables. Vous rendez compte quand même que la jeune fille écrit au jeune homme, pour répondre à toutes ces déclarations quand même enflammées, elle pique les mots d'un autre écrivain, elle pique les mots de Cocteau, issu de L'Aigle à deux têtes, et elle lui écrit « Mon Dieu, acceptez-nous dans le royaume de vos énigmes, évitez à notre amour le contact du regard des hommes, mariez-nous dans le ciel ». Mais le garçon, ça le rend marteau pour la vie. Il est prédestiné pour la vie à être, le chevalier pathétique, le chevalier pathétique de sa belle. Et donc toute sa vie est à cause d'une phrase d'un autre écrivain que cette fille lui a écrite. Et ils n'ont jamais été ensemble. C'est un amour chaste. Donc c'est pour ça que c'est très littéraire. Parce qu'un amour consommé, ça s'appelle un mariage. Et c'est pas un roman, un mariage, c'est pas littéraire. Il faut que l'amour soit rendu impossible. Alors bien sûr, il y a la mort, qui est toujours magnifique. Mais là, ce qui rend impossible, finalement, cet amour, c'est, un, que cet amour n'est né que par l'écrit, et donc il n'y a pas eu de rencontre des corps, et donc la rencontre des corps est rendue impossible parce qu'ils sont allés trop loin en écrit. Ça serait que déception, voilà. Et puis, l'autre chose qui rend impossible cet amour, la consommation de cet amour, c'est bien sûr l'entrée dans l'âge adulte, surtout pour cette jeune fille qui a des études, voilà, a un CV à construire, etc. Et lui, il reste sur le quai, finalement, voilà, toute sa vie.
Vous ne pensez pas qu'un mariage puisse faire un bon sujet littéraire, alors? Il n'y a pas de mariage littéraire, selon vous?
Non, je ne crois pas. Je serais incapable d'écrire sur mes 26 ans de mariage. Je serais incapable d'écrire ça. Je le vis.
Rémi, Carlu.
Oui, votre roman fait un petit peu écho à ce que vous disiez tout à l'heure sur votre envie d'écrire qui est liée à un amour de jeunesse ou une fille que vous aviez pu fréquenter. On a l'impression que c'est vous que vous avez essayé de décrire et de nous livrer avec cet ouvrage. Est-ce que c'est un ouvrage que vous avez eu longtemps en tête, que vous avez mis du temps à accoucher, qui était difficile à rédiger?
Non, c'est le contraire, en fait. C'est-à-dire que je me suis rendu compte au bout d'un moment que chaque ligne que j'avais posée était sous le regard d'une autre. Et donc là, je me suis dit, il faut que j'écrive ce roman. En fait, c'était même un ami, Gérald Angelvin, l'ami peintre qui a peint mes mains sur ce roman, en couverture de ses romans, et qui m'a dit, mais il faut que tu écrives cette histoire. Sachant qu'après, on fait littérature. C'est-à-dire qu'on fait du Frankenstein. J'ai pris des parties, même pas la même tête. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est de la littérature. Hein. J'ai transformé cette matière première en roman. où tout est faux, Lyon, Paris. Voilà, j'ai collé des scènes les unes aux autres que j'ai vécues avec d'autres. Voilà.
Alors, vous publiez également, cette fois-ci en tant qu'éditeur, un ouvrage collectif pour les 10 ans de la mort de Maurice Dantec. On va le montrer. Ah bah si, on le voit là. Très bien. Refaites-le comme ça, moi j'ai les mains libres. Voilà. Cahier de la marge, Maurice Dantec. Vous avez demandé à plusieurs écrivains d'écrire donc ce livre hommage à Maurice Dantec. Alors, ça m'ennuie beaucoup de poser cette question. Néanmoins, vous l'avez dit, il y a des écrivains, malheureusement, qu'on oublie. Alors, il y a toujours quelques années qui suit la mort. On oublie un écrivain avant qu'il revienne. J'espère que votre ouvrage fera que Maurice Dantec va revenir. Mais pouvez-vous nous rappeler qui était Maurice Dantec ?
Alors, Maurice Dantec, c'était le best-seller français. C'était celui qui vendait le plus de livres. Il a commencé donc à La Noire de Gallimard. Vraiment en écrivant des romans policiers où il allait à la racine du mal, hein, voilà. Donc Marc connaît ça encore mieux que moi. Et puis au tournant des années 2000, il a fédéré pas mal de personnes nouvelles parce qu'il s'est mis à écrire des journaux métaphysiques. Alors moi, rien que le mot métaphysique, j'ai plongé. Hein. Je me rappelle, j'avais lu l'annonce de ça dans L'Homme Nouveau. Et là, on a vu en direct, au fur et à mesure de ses paroles qu'il posait, de la pensée qu'il torturait, qu'il manipulait, c'est sa conversion. On a assisté à la conversion de Maurice Dantec à travers ses livres. Et puis en parallèle, il a basculé dans la SF et là, il nous a livré toute une suite de romans. Il faut savoir que Maurice Dantec aimait les romans qui se suivent. On retrouve les mêmes héros, etc. Donc il y a plusieurs suites avec les héros que l'on retrouve, auxquels on s'attache. Et c'était des pavés dans lesquels il y avait une abondance d'informations énorme parce que il nous livrait une bibliothèque. Maurice Dantec, c'était une arche vivante, un autodidacte. Il avait tout lu, Joseph de Maistre, Blois, etc. Et il nous recrachait ça chaque fois qu'on retrouvait un auteur, nous on allait le lire. On est vraiment nous engendrés par Dantec. On est la génération Dantec. Il nous a modifié. Moi, il y a longtemps, j'avais écrit Dantec m'a modifié et c'est vrai quoi. J'étais plus le même. Voilà. C'est un des auteurs phares pour moi. Et par exemple, dans Cosmos Incorporated, il est capable de balancer quasiment 100 pages de théologie. Alors du coup, le lecteur se carapate, s'en va. Mais il n'empêche que... Enfin, derrière ça, c'est le dernier sacrifié du Verbe. La plupart des écrivains aujourd'hui sont les rentiers d'eux-mêmes. Ils s'économisent à la petite semaine, là. Ils commettent leurs petits livres où ils se copient eux-mêmes. À la façon de moi-même, je vais écrire un livre. Voilà. Lui, il s'est sacrifié. Il avait comme ambition, il me l'a dit, de faire rien de moins qu'une somme comme saint Thomas l'avait faite, à travers la narration, d'incorporer en fait toute la matière, toute la pensée, comment il avait compris le monde. C'est-à-dire son combat, c'était contre le nihilisme, hein. C'était ça tout au long de sa carrière. Et donc, il voulait mettre toute cette compréhension de ça dans l'appareil narratif. Alors, c'est parfois très lourd, hein, et en même temps hyper jouissif, et ça va à une rapidité incroyable, quoi. Je me rappelle, ces pavés sortaient, mais on les lisait à une rapidité incroyable.
Donc, il a commencé comme écrivain de polar.
Ouais.
Et à partir de 2000, en même temps que sa conversion, il bascule dans la science-fiction comme genre.
Oui. Après, c'était son drame. C'était d'être encore classé à la FNAC dans science-fiction ou polar. Alors qu'en fait, c'est le grand écrivain de cette époque. Il aurait dû être à la Blanche ou comme les autres. D'ailleurs, il faisait exprès de le mettre... Dans ces rayons-là.
Je pense que Dantec jouissait aussi justement d'être quand même considéré comme auteur de série B, parce qu'il aimait bien justement suturer et ravauder cette série B qu'il appréciait par ailleurs, avec justement des considérations théologiques sur la gnose, sur Thomas d'Aquin. Ça l'amusait, je pense, de voir qu'il était mis en rayon dans le supermarché et que ses livres contenaient autant de sapience, en fait. Je pense que ça faisait un peu jouir intérieurement, je pense.
Oui, alors... Il en a joui sans doute, mais moi je me souviens à l'époque de Satellite Sister, il commençait à en souffrir. Mmh. Il me disait, je serai toujours le clown de Saint-Germain-des-Prés, je suis jamais à ma place. Voilà, il souffrait quand même d'un manque de considération à ce...
Alors vous avez donc rencontré Dantec, je le disais en introduction pour vous présenter, vous avez été un des relecteurs Alors racontez-nous un peu cette première rencontre en tant que relecteur. Ça va pas être évident si vous êtes, en plus vous dites que vous êtes enfanté par Dantec. Rencontrer sa maman, c'est quand même toujours quelque chose d'étrange.
Ouais, c'était dur. La première rencontre, c'était par téléphone. C'était un 31 décembre, je ne me souviens plus l'année. Kersan m'avait confié le manuscrit. Hein. Kersan, c'était l'éditeur du moment. M'avait confié le manuscrit en me disant « Il y a un problème, c'est illisible. Il faut que tu lui dises qu'il se réveille, etc. » Effectivement, il y avait une novlangue un peu techno qui commençait quand même à perdre le lecteur pour accrocher l'imaginaire. Alors du coup, moi, j'y suis allé pas de main morte dans ma note de lecture. Et là, j'ai un coup de fil. 31 décembre, on commençait à organiser le 31 avec les enfants là pour faire une petite fête. Et là, j'entends « Ouais, Maximilien, je vais pas vous envoyer une armée de Serbes, mais le cœur y est, quoi. » Alors, on me dit « Oh, bah, Maurice, je suis ravi de vous entendre. » Voilà, donc c'était
bonne année à vous aussi.
Gainsbourg et Maria Pacoum, tu vois, l'échange à peu près, c'était ça. Mais donc ça, c'était le premier contact. Mais après, au-delà de ça, il y avait une très grande générosité. Il avait cette simplicité d'avoir besoin de nous. C'est-à-dire, le maître, le patron avait besoin de nous. Et on a travaillé d'une façon assez simple. Hein. On corrigeait en rouge, ils nous ont renvoyé en bleu, parce qu'on était deux avec Gaël Giovanelli, on était deux relecteurs. Et en background, il y avait le Vortex, c'est-à-dire la communauté des lecteurs de Maurice Dantec que j'animais. Et qui servait en fait de caisse de résonance. Pour lui, c'était son bac à sable, c'était sa zone d'essai, vraiment. Et donc, c'était vraiment touchant de le voir humble, sachant qu'en plus, malheureusement, il était déjà malade, et donc il était déjà avec ce corps qui devenait piteux. Voilà. Et lui, qui était si lumineux dès qu'il prenait la parole, si lumineux dans ses livres, parce qu'il a toujours cherché la lumière. Et je pense que ses deux derniers romans, c'était Light Sister et comment s'appelle le dernier
Cosmos Incorporated.
Non, bref, je vais y retrouver. Ce sont les romans où il le trouve.
Les résidents. Les résidents, c'est tout d'un.
Les résidents,
comment
exactement.
Vous avez construit cet ouvrage collectif?
Eh bien, on se connaît, hein, entre ceux qui ont écrit sur Dantec, on se connaissait les uns les autres. Contrairement aux autres écrivains pour lesquels il y a des clubs, il y a des fans, ils se déchirent. Alors les Céliniens, c'est l'enfer. Les Solerciens, c'est l'enfer. Nous, Dantec, on ne s'est jamais déchiré les uns les autres.
C'est marrant de mettre Solers entre Dantec et Céline.
Oui, c'est vrai. Voilà, on parle des clubs de fans. Donc, c'était pas des fans, mais ce n'est pas non plus des copains. On n'est pas copains les uns avec les autres. Je peux même vous dire qu'il y en a qui ne s'aiment pas du tout là, dans mon collectif que j'ai réuni. Mais néanmoins, chacun était incontournable pour moi pour avoir écrit sur Maurice Dantec. Il en manque un. Il manque à minima Aurélien Lemans, avec qui j'avais le projet au début, hein, d'écrire ce collectif, mais qui donc réserve sa participation ultérieurement pour lui-même produire quelque chose. Il avait déjà écrit un très bon livre d'ailleurs qui s'appelait Traum sur Dantec.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Dantec...
Non, Messe Rouge.
Par quoi faut-il commencer? Parce que je ne vous cache pas que pour quelqu'un qui ne connaît pas Dantec, vous nous dites à la fin, il fait des littératures de science-fiction où il fait 100 pages de théologie au milieu. Je comprends qu'un éditeur s'en intéresse, pour un lecteur, on ne sait pas ce qui est le plus vendeur non plus.
Mais souvent, on a souvent comparé Dantec à Blois parce que les deux étaient des auteurs de ce qu'on appelle des grands romans ratés, c'est-à-dire des romans bourrés de digressions qui du coup échappent
au
romanesque.
Mais ça, c'est pas vendeur non plus, Marc. On va essayer de faire quelque chose un peu vendeur, si vous me permettez.
On peut commencer par le début avec Dantec, on peut commencer par La Sirène Rouge, Les Racines du Mal.
Donc ça, c'est des polars.
Ouais, ouais. Et où il y a déjà beaucoup de matière sur sa compréhension du mal... ce combat contre le nihilisme, etc. Là, ils sont très très loin, mais on est que dans la narration. Il n'y a pas de discours. Il n'y a vraiment pas de discours.
Et c'est vrai qu'après, quand on pense en romans dystopiques ou des romans de science-fiction, on pense plus naturellement à des auteurs américains. Alors d'ailleurs, ça a été étonnant parce que lui, pour français, ouais, prend des titres en anglais.
Oui, alors il était fan de K. Dick. Il faut savoir aussi qu'il a été adapté à Hollywood quand même. Comme ceux qui disent... Dantec ne connaît pas aujourd'hui, enfin, j'ai juste envie de leur dire, c'était non seulement le patron, mais il était très, très célèbre. Dans ses romans dystopiques, là, comme Cosmos, Grande Jonction, ou Satellite Sister, etc., enfin, c'est vertigineux. Enfin, franchement, si on aime ça, il y a une puissance. avec des, je me rappelle toujours, il y a l'antipape à Los Angeles, c'est une femme qui a été élue pape. Pendant ce temps-là, il y a une communauté de vieux chrétiens au Québec qui font un concile et qui se demandent si le cyberdog a une âme. J'adore, moi, ce genre de truc. Mais c'est... Donc, pour les fans de SF, il y a de quoi quand même se régaler aussi. Moi, je n'ai jamais été SF. Quasi... Je crois que Dantec est absolument le seul auteur de SF que j'ai lu, parce que c'était Dantec.
Alors, vous dites, on vous l'avait dit un peu au début, vous, en tant qu'écrivain, en tant que lecteur et en tant qu'éditeur, vous cherchez donc un style, mais un message. Est-ce que Dantec était quelqu'un de prophétique? Quand on fait de la SF, on parle chez Caddy, quelqu'un qui a profité de quelque chose. Est-ce que Dantec était un prophète? Quel était le message qu'il voulait faire passer? Quelle vision avait-il de notre époque d'aujourd'hui? Parce que quand on fait de la science-fiction, on imagine le futur. Comment voyait-il notre futur?
Notre futur, il le voyait comme l'effondrement de l'humanité d'un point de vue anthropologique et la nécessité pour ceux qui survivent à ça de construire une arche pour préserver. Alors une arche souvent, pour Dantec, c'est une bibliothèque. Hein. Les livres sont des armes. Voilà. Et donc le futur, il le voyait comme ça, c'est-à-dire une élite. Et curieusement, vous voyez ceux qui écrivent là sur Dantec, les lecteurs de Dantec, se considèrent un petit peu comme une élite, c'est-à-dire des lecteurs d'élite, au sens de presque militaire hein, du terme. Et donc, ils voyaient l'humanité effectivement comme allant à sa perte à cause du nihilisme, à cause de l'adoration de la culture de mort, à cause, bien sûr, de la guerre mondiale, parce qu'il avait une intuition de la guerre larvée en permanence. Pour lui, la guerre froide ne fut pas... du tout la guerre froide, mais la Troisième Guerre mondiale, et il voyait la Quatrième se dessiner. À l'époque, il voyait déjà, bien sûr, le conflit avec la civilisation musulmane, mais voilà, ce qui se dessine aujourd'hui dans cette soif de guerre mondiale, il la voyait, il l'a transposée d'un point de vue interstellaire, puisqu'après, c'est la Lune, c'est Mars, voilà. Et donc, cette arche, c'est aussi la logique de la fuite. La fuite est la logique de la suite, puisqu'à chaque roman, il y avait une suite. Si vous voyez le nombre de projets de romans qu'il avait encore, on les cite dans le collectif, là, mais il avait des projets pour encore 50 ans à venir.
Merci beaucoup, Maximilien Frisch. Donc, je rappelle, montrez votre livre. Voilà, celui-là, que j'ai ici. On va faire double écran. Paf, comme ça, c'est un partout. Folle, donc votre roman, édité aux éditions Sans Escale, donc un roman d'amour. Il y a également... Ça, vous faites en tant qu'éditeur les Cahiers de la Marge, donc un ouvrage collectif en hommage à Maurice Dantec. Donc, vous l'aurez compris, chers auditeurs, il faut se replonger dans Dantec. On va commencer par les polars, et puis après, on va basculer avec sa conversion dans la science-fiction. Donc, je rappelle, vous êtes l'éditeur et votre maison d'édition, c'est Nouvelle Marge, et vous êtes également à la tête de cette revue littéraire en ligne qui s'appelle Mauvaise Nouvelle. Et je rappelle également le livre de Marc Hainaut, L'ampleur des dégâts, on change de registre, 2017-2026, le vrai bilan d'une présidence. Évidemment, vous l'aurez compris, on parle de notre cher président Macron aux éditions de L'Artilleur. Voilà. Chers auditeurs, la semaine prochaine, nous ne serons pas là parce que nous partons en vacances. Donc, vous aurez droit à un petit best-of, comme on dit, des meilleures émissions de Restons Courtois du mercredi. En revanche, demain, donc, vous retrouvez Marc Hainaut, qui était assis dans le fauteuil d'invité, qui sera donc dans le fauteuil d'animateur. Et vendredi, ce sera Marc Baudrier. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, et donc, à dans deux semaines.
Ça suffit maintenant !